Salut, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Célibataire. Donc aujourd'hui, je suis avec Antonia, mon amie entrepreneur avec qui j'échange tous les jours avec des petits vocaux, des messages vocaux sur WhatsApp. Et là, je suis avec elle comme toutes les semaines. On se fait une petite session chez elle, une session hebdomadaire pour discuter ensemble de problématiques qu'on a dans notre quotidien entrepreneurial, mais aussi perso. Et il se trouve que Antonia est actuellement célibataire, donc elle a envie de venir partager ça avec nous. Et on va parler de deux périodes de son célibat. Il y en a eu un qui était il y a plusieurs années. Ensuite, elle a été en couple pendant 8 ans et a eu un enfant qui a aujourd'hui 2 ans. Et elle s'est séparée de cette personne il y a 6 mois. Donc, c'est une nouvelle période de célibat dont on va parler également et qui est différente de la première. Donc pour commencer, Antonia, est-ce que tu peux te présenter un peu, dis-nous qui tu es, donne-nous un petit peu de contexte.
Oui, salut tout le monde. Moi c'est Antonia, j'ai 28 ans et je suis coach en amour de soi et en confiance en soi depuis un an. Mon travail c'est d'aider les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure et à vivre une vie de jouissance. Et j'adore faire ça.
Ok, du coup on va commencer par ta première période de célibat, donc est-ce que tu peux nous dire il y a combien de temps c'était, combien de temps ça a duré et nous dire un peu quel célibataire tu étais à l'époque et qu'est-ce qui a été peut-être difficile pour toi à cette époque-là.
Oui, alors je pense que cette première période de célibat en fait a duré toute ma vie jusqu'à la rencontre de mon ex. Je me suis jamais vraiment considérée comme en couple. J'ai dû avoir, un peu comme tout le monde, des petites amourettes au lycée, pas au collège, parce que j'avais plus des amis, j'étais plus l'amie des garçons qu'autre chose. Génial. Mais après, oui, donc quand j'étais au lycée, j'ai eu des mecs que je fréquentais. On se voyait un peu à la sortie, on se faisait vite fait des bisous, mais c'est plus moi qui courais après les mecs qu'autre chose. j'ai eu un copain pendant peut-être 6 mois quand j'étais en terminale, mais c'était à distance parce qu'il était en France et moi j'étais à Madagascar. Parce que du coup j'ai fait toute ma scolarité à Madagascar jusqu'à mes 18 ans. Pour moi c'était même pas sérieux en fait. Je pense que pendant toute cette période, donc qui a duré jusqu'à mes 20 ans, parce que c'est l'âge où j'ai rencontré mon ex, j'étais une célibataire qui avait besoin de se prouver que si j'avais un copain, alors j'avais plus de valeur. J'avais besoin de me faire, de me prouver que un homme pouvait m'aimer. Et j'étais toujours en recherche de comment être la personne qui va plaire aux garçons. Mais ça, c'était surtout, je pense, à partir de la seconde, quand t'es vraiment dans l'adolescence et que tu deviens une femme. Je prenais des décisions le matin du style, ok, quel t-shirt je peux mettre parce que si je mets cette couleur, alors tel mec va plus me regarder et tout. Enfin, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de choses en fonction de comment j'allais ou pas plaire aux garçons. Et finalement, c'était une période où, quand je la regarde avec du recul, j'étais assez fragile parce que j'étais pas du tout sûre de moi. Comme je te disais avant, j'avais l'impression que j'avais l'impression que ma valeur dépendait du regard que les hommes avaient sur moi, et que donc dès qu'il y avait un garçon de mon lycée qui me regardait, qui venait vers moi et qui me draguait, j'avais l'impression d'avoir soudain de la valeur, et donc je m'accrochais à ce mec, je faisais tout pour qu'il s'intéresse encore plus à moi, pour qu'il m'aime, pour qu'on devienne en couple. Et je me faisais des films, mais pendant des jours et des jours dans ma tête, où je nous imaginais partir en vacances, se marier, avoir une famille, des enfants. Et finalement, ça ne donnait rien. Je me faisais complètement des idées. c'est un mécanisme qui m'a suivi pendant vraiment très longtemps et qui m'a plusieurs fois mené à des expériences assez ben, c'est triste parce que du coup, je me jetais un peu dans les bras de n'importe qui. J'ai eu notamment. Après, j'ai pas eu énormément d'expérience avec les garçons avant mon copain, parce que je l'appellerai comme ça, parce que c'est le seul vrai copain que j'ai eu. J'ai eu 3 ou maximum 4 expériences avec des garçons où c'est allé jusqu'à la relation sexuelle. Et à chaque fois, je l'ai regretté. Parce que, ben, du coup, je le faisais pour les mauvaises raisons. Je me disais que si je venais à passer à l'acte avec cette personne, alors il allait m'aimer et alors on allait pouvoir construire quelque chose. Et en fait, il s'est trouvé que, ben, comme moi, je ne me respectais pas en faisant ça, ben, les mecs en face ne me respectaient pas non plus. Et pour eux, c'était plus des aventures sans lendemain qu'autre chose, alors que moi, je m'impliquais vraiment. Mais encore une fois, pas pour les bonnes raisons. En fait, je me suis jamais posé la question est-ce que cette personne avait les qualités que je recherchais, est-ce que je me voyais construire vraiment quelque chose avec cette personne. Pour moi, c'était juste vu que ce mec a un peu d'intérêt pour moi, alors il faut pas que je le perde, il faut vraiment que je capitalise en gros pour que ça donne quelque chose, parce que j'avais vraiment aucun espoir que ça puisse se reproduire. Donc ouais, j'étais cette personne là ça fait c'est hyper vulnérable pour moi de le partager, parce que je pense que j'ai jamais partagé. J'étais cette personne-là, ouais, fragile, complètement en manque d'amour de moi et de respect de moi. Ouais, je pense que ça résume assez bien la situation dans laquelle j'étais déjà.
J'ai eu ça aussi, cette façon de... Enfin, en fait, je pense que c'est plus l'autre chose que tu as dite, qui est j'ai de la valeur si je suis en couple. Donc, toi, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Il y a j'ai de la valeur si un garçon s'intéresse à moi, ouais. Mais tu as aussi dit, et tu as peut-être moins appuyé dessus, ou c'était peut-être avant qu'on commence l'épisode, tu as dit si je suis en couple, alors j'ai de la valeur, et peut-être plus aux yeux du reste de la société qu'aux ouais. yeux du garçon lui-même. Tu peux nous en dire plus sur cette partie-là?
Ouais, j'étais, je pense, dans mon groupe d'amis filles, celle qui avait le moins de succès avec les garçons à l'époque. Et quand je les voyais, elles, avoir du succès, avoir des copains, je me disais que elles étaient plus heureuses et qu'elles avaient mieux réussi, qu'elles avaient plus de valeur. Qu'elles étaient tout simplement plus appréciées en fait par les gens en général, donc la société. Et moi, j'avais l'impression que si j'arrivais pas à attirer un mec et à garder un mec et donc à être en couple, alors j'étais pas une personne qui avait assez de valeur. C'est comme si ça prouvait ma capacité à réussir ma vie en fait. Il y a une autre idée qui était là et qui est partie. C'est parti.
Et est-ce que tu sais d'où cette croyance elle s'est créée? Est-ce que c'était tes copines qui te faisaient des réflexions, ou des personnes de ta famille ou d'autres personnes, ou est-ce que c'était vraiment dans ta tête?
Je pense qu'il y a pas mal un effet culturel du coup dans la société où j'ai grandi. Le chemin de la réussite pour une femme, l'objectif de la vie, c'est vraiment assez tôt de pouvoir trouver un homme avec qui on va faire sa vie, se fiancer, se marier, avoir des enfants et pouvoir garder un homme toute sa vie en fait. C'est vraiment un symbole de réussite. Je pense que j'ai eu cette pression-là assez tôt sur moi, parce que je suis l'aînée de ma famille. En fait, je pense que le fait d'avoir un homme dans sa vie, c'est la preuve que t'es une bonne personne, parce que tu te fais respecter, parce que si t'as un homme dans ta vie, c'est parce que tu fais bien la cuisine, t'es une bonne personne, en fait. Y avait ça, et puis y a, je pense, aussi pas mal d'impact des médias et des films qui m'ont fait longtemps croire que, en fait, que le but de la vie, c'est d'être en couple. que les meilleures personnes dans le monde sont celles qui sont amoureuses, épanouies dans leur relation. Que si t'es célibataire, en gros, t'es un peu une ratée, quoi. Ma croyance, c'était ça. Pendant très très longtemps, si j'avais pas de mec, c'était que j'étais soit moche, soit bête, soit... soit que voilà, j'ai pas réussi un truc en fait. Pour moi, c'était, je le voyais vraiment comme un échec social. C'est très grave de voir les choses comme ça, je pense, mais je voyais vraiment ça comme ça.
Bah, enfin, je pense pas que ce soit grave, mais je pense surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça aussi, qui ont cette, cette vision. Enfin, c'est comme avec le travail, on a la vision de la réussite. On sait, d'ailleurs, on sait, enfin, moi, je saurais pas dire exactement d'où ça vient, tu vois, mais je pense qu'on est nombreux à être d'accord en France sur le fait que la norme, entre guillemets, c'est de trouver un CDI, puis d'être en couple, puis d'acheter un appart ou une maison, le mariage, les enfants. À la limite, le mariage, peut-être un peu moins maintenant, mais les enfants. Et donc, quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, il n'est pas considéré comme normal. C'est quelqu'un ça. Qui n'est pas en couple, on a l'impression qu'il a un problème. C'est mais ça. Pourquoi mais comment ça se fait, tu vois? Et... ce que tu disais par rapport à ce côté culturel, ça me fait penser, j'ai regardé le film Radioactive qui est sur Marie Curie il y a quelques jours.
Ouais.
Et le film parle à la fois de ce qu'elle a découvert en tant que scientifique, mais aussi on voit très bien que, en fait, elle évolue dans un monde d'hommes. Et elle dit, quand Pierre Curie vient à elle pour lui proposer de bosser dans son labo, elle lui dit... déjà lui dit non à la base, puis après finalement elle lui dit oui, mais par contre je garde ma façon de faire. Et après, quand il commence à se passer un peu un truc entre eux, elle dit: je vois comment vous me regardez, mais sachez que je vous ferai jamais de moi ce que vous voulez, je me plierai pas à ce que vous voulez, etc. Enfin, elle lui fait bien comprendre que ça va pas être l'épouse modèle. Et d'ailleurs, elle souffre un peu plus tard dans sa vie du côté où finalement bah, elle a eu deux enfants et elle fait un peu tout ce qu'il faut dans le foyer, alors que ce dont elle a envie, c'est vraiment de se concentrer sur son travail. Et en plus, c'est une époque où quand ils reçoivent le prix Nobel, à la base, il est attribué que à Pierre Curie, alors que c'est elle qui a découvert le nouvel élément, sauf qu'ils bossent ensemble, donc ils l'ont attribué à lui. Et donc voilà, il y a un peu ce côté, alors c'était pas du tout la même époque, hein, c'était au début, c'était dans les années 1900,
ouais.
Mais voilà, il y a quand même ce côté, le but de ma vie n'est pas forcément que d'avoir des enfants, même si elle est heureuse d'être mariée à lui, d'avoir des enfants, mais son travail compte énormément, etc. Comment t'as rencontré ton copain?
Alors, je sortais d'une expérience, encore une super expérience, enfin, je dis super, c'est ironique, avec un garçon, c'était un garçon qui voulait que, il avait été clair depuis le début, en fait, il voulait que une relation physique. Et il se trouve que, en fait, moi, comme j'étais encore dans mon mécanisme de « il faut à tout prix qu'il se passe un truc de plus et qu'on se plaise et qu'on aille très loin ensemble », j'ai pas respecté ce qu'on s'était dit au début et je suis tombée amoureuse de lui. Et quand il a su que j'avais des sentiments pour lui, il a tout de suite coupé court à la relation, on a arrêté de se voir et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et je me suis dit... plus jamais je me laisse avoir comme ça, je vais faire très attention à mes sentiments et je me suis dit je ne serai plus amoureuse, c'est terminé, ça me fait trop du mal et tout. Et donc à cette époque, j'habitais à Clermont-Ferrand et j'étais partie en vacances 2 mois complètement à l'autre bout du monde, à Saint-Barthélemy, parce que j'avais besoin de l'oublier. Et à la fin de ces vacances, je me suis installée à Montpellier. Donc ça, c'était en 2011. Et donc, j'étais étudiante, j'étais en master à l'époque. Enfin, je devais commencer un master et je me suis installée en cité universitaire à Verbois. Je me rappelle très bien. Et en fait, il se trouve qu'il y avait un voisin qui habitait donc juste en bas de chez moi, qui était très sympa. Et j'avais vu qu'il m'avait remarqué depuis le début. Et je me suis dit, non, il ne se passera rien avec lui. Et en fait, il a été très, très entreprenant. Il m'a invité avec d'autres voisins de la résidence, à venir chez lui pour faire un apéro, pour faire connaissance. En fait, juste donc les jours d'avant, il avait tenté plusieurs approches, genre, c'est le truc un peu typique du voisin qui vient te demander du sel ou de l'huile, des trucs comme ça. Donc je savais qu'il m'avait repéré, mais moi j'étais genre non non non, moi je ne veux plus de ces choses-là, c'est terminé. Et en fait, donc à cette première soirée qu'il avait fait chez lui, donc il y avait d'autres voisins et il se trouve que on avait finalement vraiment bien accroché. Et le soir même, j'ai dormi avec lui. Donc, je suis, boum, retombée dans le même truc que je voulais éviter. Et sauf qu'en fait, je m'étais dit, bon, ok, allez, je m'autorise à avoir des expériences avec ce garçon, mais par contre, c'est moi qui prends le contrôle et ce sera vraiment que sexuel et je veux pas rien de plus avec lui. Et puis au final, on est tombé amoureux, mais on est tombé tous les deux amoureux. Et ça s'est un peu fait tout seul. Moi, j'ai beaucoup résisté au début parce que je me suis dit que je voulais pas me refaire avoir, ni m'engager dans quoi que ce soit. Et il a été très rassurant en me disant que qu'il était prêt à construire quelque chose et que de toute façon, on s'entendait bien et qu'on allait voir où ça allait nous mener. Donc finalement, je me suis un peu laissée embarquer par mes sentiments et ça a duré 8 ans. Donc c'était quand même une belle expérience et il y a eu des moments pendant la relation au début surtout où je me suis dit c'est bon, j'ai repris confiance en moi grâce à cette expérience et je voulais je sais pas s'il va écouter ce podcast mais bref, je voulais arrêter la relation au bout de quelques mois en me disant je me rappelle trop que j'ai eu cette période, je me disais bon bah maintenant que j'ai eu confiance en moi, je vais arrêter cette relation et je vais ressortir avec des mecs et je vais leur faire du mal comme ils m'ont fait du mal. Je voulais, je sais pas, je voulais faire vivre cette déception à d'autres personnes. Mais finalement, ben, ça ne s'est jamais fait. Parce que du coup, je suis restée en couple avec lui. Et c'est plus du tout un sentiment que j'ai maintenant.
Est-ce que tu veux dire pourquoi vous vous êtes séparés ou tu veux qu'on passe direct à la phase célibat?
Ce que je peux te dire sur le pourquoi on s'est séparés, y a eu plusieurs raisons que moi je vois aujourd'hui avec du recul parce que ça fait 6 mois. C'est surtout que déjà le fait d'avoir un enfant, ça déséquilibre vraiment beaucoup tout ce qu'on avait créé. On n'avait plus les mêmes besoins, plus les mêmes envies. Et je pense qu'on n'a pas pris le temps d'écouter ça et de refaire le point. Il y a aussi le fait que lui, il est auto-entrepreneur. Et moi, au moment où je suis tombée enceinte, à peu près, j'ai décidé aussi de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Donc ça a été aussi un choc pour la relation parce que du coup, tous nos besoins ont changé. Et pareil, en fait, on n'a pas pris le temps de réactualiser nos besoins. Et je pense qu'on est un peu chacun parti dans sa direction sans prendre le temps de voir que l'autre partait dans l'autre direction. Et c'est ça qui a, c'est ça entre autres, mais je pense que ça a été la base qui a causé notre séparation. Moi, il y a eu pendant une longue période avant la séparation officielle où je me suis posé la question de est-ce que j'étais prête à être célibataire? Ce qui a motivé mon choix, ça a été de me dire que je savais que là, j'étais plus bien dans le couple. Il me manquait beaucoup trop de choses et que peut-être que ça allait être dur le célibat, mais que ça serait toujours mieux que la souffrance qui avait été créée entre nous. Et donc j'ai eu beaucoup beaucoup de peur, surtout que j'allais me retrouver ben, seule avec un enfant, et pas juste seule. Mais je me suis dit que c'était pas juste de. Tu vois, il y a des gens qui font le choix de rester ensemble pour l'enfant, et je me suis dit que ça allait vraiment pas être sympa pour elle de mettre ce poids et cette responsabilité alors qu'on pourrait la prendre alors que c'était à nous de la prendre en fait. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question.
Si.
J'ai un peu oublié la question. C'est
Non, mais c'est bien, t'as poursuivi. Bah, justement, là, ça fait 6 mois que vous êtes séparés.
bon.
Est-ce que tu peux nous raconter comment est cette nouvelle phase de célibat et en quoi elle est différente de la première?
Ouais. Aujourd'hui, contrairement à avant, je me sens vachement plus complète dans mon célibat. C'est-à-dire que je ressens pas le manque de... le besoin de plaire à une autre personne. C'est plus une fin en soi, en fait. Je sais que je suis seule, je suis célibataire actuellement parce que j'avais besoin de me retrouver moi. Et je me focalise vraiment beaucoup sur ça en ce moment, sur retrouver en fait mes propres envies, mes propres besoins, mon propre équilibre. Et en fait, ça prend vachement de temps. Du coup, le fait de penser à moi, ça m'occupe vraiment beaucoup. Je pense à moi en tant que personne, mais du coup, je prends aussi beaucoup plus de temps pour me consacrer à mon entreprise. Je m'occupe aussi de beaucoup de ma fille. Donc finalement, le manque que j'avais il y a 8 ans en me disant « il faut que j'ai un mec pour me sentir complète », ben, il n'existe plus en fait. Je me sens vraiment bien avec moi-même. J'ai une façon de penser qui est complètement, complètement différente d'avant. Je pense que finalement, cette période de cette relation de couple m'a fait énormément grandir, l'âge aussi. Mais le fait d'avoir été en couple m'a permis de me rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses que j'avais en étant en couple et que je recherchais auparavant à travers le couple, que finalement je suis capable de m'apporter à moi-même, comme l'écoute de moi-même, la sécurité intérieure, le soutien. Ça fait pas tout d'être seule, mais... Je me dis que ma priorité, c'est déjà de m'apporter ces choses à moi-même parce que j'ai pas envie de, si jamais je retrouve une nouvelle personne, qu'elle comble un vide, en fait. J'ai envie que si je retrouve une nouvelle personne, parce que ce n'est pas la priorité aujourd'hui, qu'elle soit un peu comme un bonus, tu vois. Genre là, j'ai envie d'être très heureuse en étant toute seule, avec moi-même, avec tout ce que j'ai déjà à gérer. Et que finalement, la personne qui arrive dans ma vie juste rajoute de la joie et pas... je veux pas qu'elle ait un rôle de combler le vide, en fait, ou de soigner mes blessures.
Est-ce que tu as l'impression de découvrir des choses sur toi aujourd'hui que tu n'avais peut-être pas la place de découvrir quand tu étais en couple, ou bien pour toi, c'est la... l'évolution, ça a commencé avant, t'as progressé pendant que t'étais en couple, ça continue maintenant?
Je pense que j'ai commencé à mieux apprendre à me connaître pendant ma période où j'étais en couple, mais c'est pas forcément dû au couple, parce que c'est juste que il y a 4 ans à peu près, j'ai découvert le développement personnel, et du coup j'ai consacré beaucoup de temps à apprendre à me connaître. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire sans être en couple, mais le fait d'avoir été en couple, ça a fait vachement de miroir sur... ça m'a aidé à mettre en évidence des blocages que j'avais, des fonctionnements que j'avais. Et donc, j'ai pu découvrir, grâce à ma relation, des choses que j'aurais peut-être pas pu voir toute seule. Là aujourd'hui, finalement, c'est une autre façon de se découvrir. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace pour m'explorer. Je pense que aussi une des raisons qui a fait qu'on pouvait plus évoluer de cette façon-là ensemble, c'est que moi, j'avais débuté un parcours de développement personnel que lui n'avait pas fait. Et il y a eu du coup un décalage entre nous et entre du coup moi qui apprenais à mieux connaître mes attentes, j'apprenais à moins correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et donc, moins correspondre à ce que lui attendait de moi. Je pense que j'ai un peu pris mon envol à ce moment-là. J'aurais aimé qu'il me suive. Tu vois que lui aussi, il cherche à se découvrir et à aller plus loin. Mais il n'a pas été dans cette démarche-là. Il était plus en mode dans le statu quo. On ne peut pas forcer les gens à faire leur propre développement personnel. Et je pense que ça m'a manqué. J'ai eu l'impression d'être un peu retenue vers le bas. Et là, maintenant que je suis seule, j'ai l'impression de pouvoir un peu plus déployer mes ailes et aller encore plus loin dans les choses que j'ai commencé en étant en couple.
C'est marrant parce que moi, c'est une question que je me pose, c'est quand je réfléchis à ma future relation, qu'est-ce que j'ai envie qu'il y ait comme dans cette relation. Et c'est vrai que j'ai tendance à me dire que j'aimerais être avec quelqu'un qui est justement dans cet état d'esprit de développement personnel, parce que moi, je suis tellement dedans. Je sais qu'il y a des personnes autour de moi, quand je leur dis tout ce à quoi je réfléchis, ou voilà, les trucs sur lesquels je progresse, qui me disent, mais en gros, pourquoi tu te prends autant la tête, tu vois? Pourquoi tu vas toujours chercher un truc qui va pas pour le réparer? Et le truc, c'est que moi, c'est plus fort que moi, tu vois, c'est genre, ça fait vraiment partie de moi. Et j'aime beaucoup les personnes qui se posent aussi des questions, sans forcément être dans le... genre que ça te fasse souffrir en mode, il y a quelque chose qui va pas, faut que je change, mais juste de façon saine, tu vois, de se dire, ben moi j'aime bien réfléchir à moi, peut-être aller de plus en plus vers des trucs, c'est de plus en plus spirituel, tu vois, ça a commencé le développement personnel et ça avance de plus en plus vers du spirituel. Et je me dis, ouais, mais est-ce que justement, tu vois, est-ce que ça doit faire partie de mes standards ou pas? Est-ce que c'est trop demandé, tu vois? Est-ce que justement ça peut fonctionner si moi je suis dans cet état d'esprit-là et que je suis avec quelqu'un qui ne l'est pas forcément? Et donc, bon, toi, tu dis que ça a été peut-être un problème dans ton couple. Après, ouais. Je sais pas si on peut faire une généralisation, tu vois, mais toi, t'en penses quoi?
Moi, je pense que aujourd'hui, c'est très important pour moi d'avoir une personne qui se pose des questions. Alors, pas forcément qui fasse du développement personnel comme moi ou toi on fait, tu vois, en se posant des questions tous les soirs, en ayant des routines du matin, parce que c'est conscient, en fait. Nous, on le fait de façon consciente, mais par contre, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui, tu vois, qui se posent des questions et qui essayent de réfléchir à qui ils sont sans admettre qu'ils font du développement personnel, tu vois. Un des critères pour moi qui est important, mais que j'ai découvert en sortant de cette phase de relation de couple, c'est que j'ai besoin que la personne soit honnête avec elle-même sur les sentiments qu'elle ressent et qu'elle puisse être assez honnête et vulnérable pour en parler. Mon ex, il était très fermé sur ça et donc ça bloquait en fait dans les conversations, ça frottait à chaque fois. Et je sais que voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'une personne qui est capable de parler des choses qu'elle ressent, quand ça va, quand ça va pas. Et sans pour autant mettre l'étiquette développement personnel dessus, même si c'est ça en fait. Pour moi, je préférerais le traduire plus en comportement et en attitude du quotidien. Clairement, ouais, une personne qui se pose pas de questions et qui préfère ne pas voir tous ces bullshit autour et continuer à vivre comme ça, moi je peux pas, mais même pour des amis, tu vois, c'est quelque chose qui me bloque. Parce que, tu vois, tu l'as dit, en fait, tu rentres dans une relation où la personne ne peut pas te comprendre. Et pour moi, on peut rien construire sur ça, quoi. Et quand tu commences à apprendre à te découvrir, à apprendre à connaître ton potentiel et tes capacités, tu ne peux plus t'arrêter, tu as toujours envie d'aller plus loin. Et si tu n'es pas avec une personne qui est dans cette démarche-là, elle peut vite se sentir menacée ou limitée par toi. Non, je pense que c'est important d'avoir déjà toi d'être au clair sur ton envie de grandir et sur tes standards, parce que la personne en face, il faut qu'elle soit claire aussi, quoi.
Ce que tu dis, ça me fait penser au design humain, parce que du coup moi en tant que manifesteur générateur, ce qui m'est conseillé pour les relations, c'est, enfin, en gros, ça dit que j'ai un tempérament qui fait que je vais toujours aller faire plein de choses très vite, à un rythme qui souvent est beaucoup plus rapide que quelqu'un qui n'est pas avec ce tempérament-là. Et que du coup, il faut à la fois que je sois avec quelqu'un qui accepte que moi, je sois toujours dans... Je vais être toujours dans cette recherche, dans ces nouveaux projets, dans voilà, ce dynamisme-là. Donc, il faut qu'elle l'accepte. Et il faut que moi, j'accepte que la personne ne me suive pas.
Ouais.
Donc, je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais je le vois avec mon entourage amical. C'est pas parce que moi, j'ai décidé de quitter mon entreprise, devenir entrepreneur, que j'ai envie que tous mes amis le fassent, tu vois. Bon, je les incite peut-être plus à, genre, si t'es pas bien dans ton boulot, change, mais tu vois, on n'est pas au même rythme. Ouais. Et moi, c'est un truc avec lequel j'ai pas trop de soucis. Ça, tant qu'ils sont un soutien pour moi et qu'ils critiquent pas ça, voilà, qu'on reste dans ce côté amitié et soutien, ça va. Donc, j'imagine que dans une relation, ce serait pareil. Donc, si on revient à tes deux périodes de célibat, Enfin, ce qu'on entend un peu, en tout cas ce que moi j'entends, c'est on a l'impression qu'il y avait beaucoup plus de souffrance dans la première version à cause de ce manque de confiance et le besoin de d'être avec quelqu'un pour se sentir en confiance. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Est-ce que aujourd'hui, il y a quand même des choses que tu vis mal dans ton célibat?
Oui, comme je te disais, il y a, pour avoir connu une longue période de couple, je ne sais pas si j'avais pas connu une longue période de couple, je ressentirais ça, mais aujourd'hui, ce qui me manque le plus, ce qui me fait le plus souffrir, c'est j'avais l'habitude d'avoir tout le temps, tous les soirs, quelqu'un sur qui compter, en fait, qui je sais que je pouvais raconter toutes mes journées, mes histoires, mes problèmes. D'avoir de la compagnie aussi, tout simplement, de savoir ouais, cette personne sur qui tu sais que tu peux compter tout le temps, ça me manque beaucoup. Et c'est pas forcément quelque chose que tu peux retrouver chez des amis, en fait, parce que les amis, ok, j'ai des amis qui sont là, mais on peut pas forcément parler de tout. Et disons qu'ils ne sont pas à ma disposition, je dirais, genre tout le temps, tu vois. Donc, et puis, je sais pas, c'est pas la même forme de soutien. Ouais, ce qui me manque aussi, c'est le côté affectif, le fait d'avoir tout simplement des mots doux, des câlins, des choses comme ça. C'est vrai qu'on s'habitue vite. Très agréable. Et en fait, c'est pas pareil que d'avoir ça avec une personne que tu connais par cœur, qui te connaît par cœur et qui, voilà, en gros, qui sait ce que t'aimes quand tu as besoin, qui te connaît. Parce que tu me diras, ce truc affectif, je peux le retrouver au détour d'une aventure ou d'une relation qui soit pas sérieuse, mais ça, c'est beaucoup plus maladroit, en fait. Je pense que ouais, ce qui me manque, c'est d'avoir c'était un ami, tu vois, c'était le côté amitié et le côté romance conjuguée qui me manque le plus, dans le sens où ouais, là du coup il y a cette solitude, et qui, comme je te disais au début, c'était pas un problème pour moi parce que j'étais plus dans une optique où ok, maintenant je suis seule et indépendante et je vais trop kiffer ma vie de célibataire toute fraîche, et j'étais plus dans le focus sur moi, donc je ressentais pas la solitude. Et même tu vois, on vient de passer cette période de confinement où j'étais littéralement vraiment toute seule pendant 2 mois. J'avais ma fille une semaine sur deux, mais c'est pas la même compagnie, quoi. Et ça ne m'a pas fait souffrir parce que j'ai vraiment été... je ne me suis pas sentie seule parce que j'étais avec moi. Et là, maintenant, avec beaucoup plus de temps qui est passé, un mois de plus, hein, mais quand même, je ressens le besoin, ouais, d'avoir une personne sur qui je sais que je peux compter. Et ouais, donc c'est, je pense que c'est la plus grosse souffrance. Je pense que si j'avais pas connu cette expérience-là, je souffrirais pas des mêmes choses. Mais là, le fait de l'avoir connu, c'est le plus gros. C'est un vide, en fait. Ça a créé un vide.
Je pense que même quand tu l'as pas forcément connu, je pense qu'on est tellement, les êtres humains, on est tellement des êtres sociaux. Enfin, je veux dire, on a connu l'amour charnel même avec notre maman quand on était bébé, tu vois. Quand bien tu têtes ou quand t'es pris dans les bras. Enfin, donc, je pense qu'on sait ce que c'est depuis tout petit. Et que même si on l'a pas forcément vécu en étant amoureux de quelqu'un, on sait qu'on, quelque part, on a envie de l'avoir. Et on le recherche naturellement. Je dis ça parce que moi, je considère que j'ai jamais été en couple. Tu vois, on va dire les aventures charnelles, ça reste limité, ça reste sur un nombre d'heures limité ou limite sur une nuit ou pas très longtemps, quoi. Et parce que je me suis posé cette question, je me suis dit, mais comment ça se fait que je souffre autant de pas être en couple, d'aspirer à ça alors que je l'ai jamais vécu? Et donc je pense que quelque part c'est ancré en nous, en fait, cette recherche de ouais, d'affection, etc. Et c'est marrant parce que ce que tu dis sur avoir quelqu'un à disposition, je me dis, mais tu vois, quand on est plus jeune, quand on est au collège, en fait, je pense qu'on a davantage ça avec nos amis parce que c'est une époque où, enfin, moi, mes meilleurs amis, j'ai l'impression que je leur parlais tout le temps.
Ouais.
On était toute la journée ensemble au collège. Et le soir, on se parlait sur MSN. Enfin, en fait, on était tout le temps ensemble. Et donc, on était tous à disposition les uns des autres. Mmh. Et justement, moi, je pense que j'ai commencé à souffrir un peu quand mes amis ont commencé à se mettre en couple parce que j'ai senti la différence. J'ai senti l'éloignement et j'ai senti que je ne pouvais plus, comme avant, avoir ce côté à disposition. Et les personnes dont je suis les plus proches aujourd'hui, c'est vrai que je pense je me freine moi-même parce que je me dis je veux pas trop les déranger, je veux pas être un poids, tu vois, je veux pas parce que moi j'ai pas quelqu'un d'autre dans ma vie à qui me confier, bah je peux pas leur demander elles d'être sur tous les fronts et genre de s'occuper de moi et de s'occuper des autres. Donc c'est dans une certaine mesure, mais je sais que je le fais pas autant que peut-être je pourrais en avoir besoin.
Ouais.
Et moi, clairement, ça m'aide que, par exemple, toutes les deux, on se parle tous les jours sur WhatsApp, tu vois, parce que si j'avais pas ça, je serais tellement plus seule, en fait. Là, je sais pas combien d'heures ou de minutes, de dizaines de minutes d'audio on a à notre actif, mais si on faisait la statistique par jour, on est quand même, je pense, on est sur une heure par jour en moyenne.
C'est vrai.
Il y a autre chose sur lequel je voulais rebondir dans ce que tu as dit, c'est le fait que passer par le couple, ça a augmenté ta confiance en toi.
Oui.
Moi, c'est souvent ce que je me suis dit à l'époque où je voulais être en couple. Je me disais, mais en fait, j'aimerais juste... Je me disais même, je ne demande pas grand-chose, je veux juste être en couple, même 4 mois, tu vois. Juste le temps de construire cette confiance. Et après, je sais que je me sentirais, voilà, j'aurais eu ça, j'aurais été en couple, donc c'est bon, tu vois, j'aurais cette confiance. Un peu comme quand, je fais toujours ce parallèle avec le boulot, tu vois. Mais je trouve que c'est pareil quand tu n'arrives pas à avoir un CDI, ça te fait perdre en confiance en toi. Quand tu n'arrives pas à avoir un travail, tu vois, tu postules, on te rejette, on te dit non. À un moment, tu dis, mais genre, j'ai juste envie qu'à un moment, on me dise oui, que j'y sois, et ça va m'aider à me sentir mieux. Et bon, moi, sur le côté professionnel, j'ai pas tant vécu ça, parce que justement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup construit de confiance, parce que j'étais bonne à l'école, j'ai eu les stages que je voulais, j'ai eu exactement ce que je voulais dans ma vie professionnelle tout le temps, tu vois. Mais par contre, dans ma vie amoureuse, c'était pas du tout le cas, c'était tout l'inverse.
Ouais.
Et le truc, c'est que, justement, je me disais... je voudrais juste être en couple pour réussir à construire cette confiance. Sauf qu'en fait, entre guillemets, c'est pas dans ce sens-là qu'on est censé faire les choses. C'est un raccourci. C'est-à-dire que si t'arrives à l'avoir, tant mieux, t'as de la chance et ça te permet de l'obtenir et c'est une forme de raccourci. Mais du coup, là, moi, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas été en couple et qui ont ce manque de confiance ou qui se disent... j'ai besoin de ça pour exister ou pour réussir. La première étape, ça devrait être plutôt de construire cette confiance seule.
Mmh.
Et ensuite, comme tu disais, que la personne avec qui t'es, c'est la cerise sur le gâteau. C'est toi, t'as déjà cette confiance, t'as pas besoin de ça pour te donner confiance. Enfin, moi, je trouve tant mieux, tu vois, quand t'arrives à être en couple et que t'arrives à obtenir cette confiance comme ça. Mais du coup, pour ceux qui ne le sont pas, c'est comment est-ce que tu peux faire pour la construire ? Moi, je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, bon, à un moment, je ne vais pas ne pas vivre parce que je ne suis pas en couple, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais pour être bien ? Donc, typiquement, je pense que ça peut passer par la vie pro. Ouais. On a différents domaines. Donc, si t'es bien dans ta vie pro, bon, ça peut construire ta confiance là-dedans. Si, par exemple... tu fais un loisir et tu es bon dans ce loisir ou dans ce sport, ça peut construire ta confiance. Et après, j'imagine qu'il y a d'autres choses. Moi, ça passe beaucoup par mon travail, surtout depuis que je suis entrepreneur, parce que avec tout le travail sur ta valeur, sur tout ce dont on parlait tout à l'heure, ta valeur, le fait de prendre confiance dans qui tu es, dans le fait que tu suffis, en fait. Tu n'as pas besoin de te former toujours, de développer toujours des nouvelles compétences, de prouver par le diplôme ou pour être légitime. En fait, tu es déjà quelqu'un de complet et tu as déjà des choses à apporter. Et donc, ça vaut dans le travail. Mais ça, si tu prends cette même phrase et que tu l'appliques aux relations, je trouve que c'est la même chose. Et donc, toi, justement, vu que tu es... ton boulot, il est autour de l'amour de soi, un peu la confiance en soi. Comment tu vois ça? Et je sais pas si tu pourrais donner des conseils, des pistes ouais. pour construire cette confiance et cet amour de soi.
Ouais, je pense que une des erreurs, alors je sais pas si c'est vraiment une erreur que j'ai faite, c'est plus les circonstances qui ont voulu ça, c'est que quand je suis tombée amoureuse, j'avais pas confiance en moi. Et il se trouve que de péripétie à péripétie, ben j'ai construit ma confiance en moi grâce à mon couple et grâce à mon copain du moment. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup attendu de lui avant d'avoir obtenu cette confiance en moi, que lui, il me redonne confiance en moi. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je fais la part des choses. Je sais que c'est pas parce que je suis plus en couple que je vais plus avoir confiance en moi et que je dois pas attendre ça d'un homme. Mais parce que, en fait, le fait d'avoir des attentes sur une personne, comme le fait d'avoir confiance en soi et d'avoir de l'amour de soi, c'est la pire des choses à faire, en fait. Les attentes, c'est ce qui tue les relations, parce que c'est jamais le rôle d'une autre personne de te rendre heureuse ou de te donner confiance en toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux t'apporter et que tu dois t'apporter à toi-même, que tu sois en couple ou non, en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, peut-être, sont en couple et qui attendent de l'autre personne qui les rassure, qui soigne leurs blessures ou qui leur redonne confiance. Et c'est absolument pas le rôle des gens, en fait. Personne n'a pour job de vous redonner confiance en vous. Aujourd'hui, je pense que c'est important de se concentrer sur ce qui, effectivement, comme tu as dit, peut nous redonner de la joie et du bonheur. Et ça peut être effectivement le travail, ça peut être les loisirs. Mais pour moi, ça doit surtout partir d'accepter de s'écouter, de se poser, de dire, OK, c'est quoi en fait mes envies? C'est quoi ce que j'aime? C'est quoi mes besoins? De quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite pour me sentir heureuse et pour me sentir aimée en fait? Tu sais, on parle souvent de ce sentiment de se sentir amoureuse de soi-même. Quand un peu tout va bien en fait, quand on est dans un bon mood, il fait beau, il y a de la bonne musique, on se sent tout de suite dans un état de plénitude. Moi, quand je ressens ça, je me dis j'ai besoin de personne d'autre en fait, j'ai besoin de personne d'autre pour m'apporter ça. C'est vraiment ce sentiment d'être complet, d'être un être humain complet en fait. Pendant longtemps, moi, je me suis dit que je pouvais pas me sentir. Je te l'ai dit dans ma première phase de célibat. Tant que j'étais pas en couple, j'étais pas complète. C'est comme si j'étais un puzzle et qu'il manquait une pièce et que l'autre serait la pièce manquante. Sauf qu'en fait, non. Et attendre ça, c'est créer encore plus de vide et encore plus de manque. Parce que même si tu tombes sur une bonne personne, le fait d'attendre qu'elle remplisse ce vide, ça biaise la relation et ça fait que du coup, vous pouvez pas profiter peut-être des bons moments et de construire ce qui fait envie à l'un et à l'autre, parce que ben, potentiellement, si toi t'attends que la personne vienne remplir un vide, il est très possible que t'attires une personne pour qui toi tu vas devoir remplir aussi le vide. Et c'est un peu un truc de, comment dire, moi je suis pas pleine mais je te remplis. Et toi t'es pas plein mais tu me remplis, et du coup on s'équilibre pas. Alors que si moi aujourd'hui je me sens complète et je me sens pleine, je sais que je déborde tellement d'amour en ce moment que si je rencontre une personne, et ben, le fait de donner de l'amour à cette personne, ça ne va pas me vider moi en fait. Et je veux que ce soit l'inverse aussi pour l'autre personne, c'est-à-dire que je ne veux pas être là pour soigner la personne ou l'aider à régler ses problèmes. En gros, tes problèmes, c'est ta responsabilité. Il faut que tu prennes ta responsabilité et que tu t'occupes de toi, que tu t'occupes de voir ce qui te fait mal et comment tu peux te soigner toi-même. Parce que ce n'est absolument pas le job de ton couple, enfin de la personne avec qui tu es en couple, de régler ça. Je me suis un peu perdue. Mais voilà, en tout cas, pour moi, la base, c'est vraiment, tu mérites d'être heureuse déjà juste toi-même, avec toi-même, et il ne faut jamais attendre de l'autre personne qu'elle vienne te guérir ou te soigner, parce que Je pense que c'est le poison de toutes les relations, toutes formes de relations.
Je rigole parce que pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir. J'essayais de trouver une
Oui.
métaphore pour expliquer tout ça et je trouvais pas. Et ça y est, j'en ai trouvé une.
C'est drôle, du coup.
Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est. Attends, je vais commencer par l'autre côté. En gros, voilà, comme tu dis, il faut considérer que on est complet, chacun est complet, et que du
Oui.
coup, être à deux, c'est pas apporter l'autre moitié, c'est créer une autre entité. En fait, il y a toi, il y a moi, et ensemble, on est une autre entité.
Oui.
C'est un troisième truc. Du coup, ma métaphore est la suivante.
Je m'attends à quoi là?
C'est comme si tu considérais que. Imagine que tu es une bouteille de rhum. Imagine que tu es une bouteille de rhum qui est à moitié remplie ou à moitié vide, ça dépend comment tu vois le truc. À moitié remplie, on va dire. Et tu cherches, donc bouteille de rhum à moitié, à 50% remplie, cherche bouteille de rhum à 50% remplie pour mieux remplir sa bouteille. Et hop, on fait une bouteille à deux. Ça, c'est ce qui fait, c'est la version, je cherche est-ce que la personne comble le vide. Alors qu'en fait, ce qu'il faut penser, c'est que toi, tu es la bouteille de rhum et tu cherches une brique de multifruits. Et quand tu mélanges, ça fait du punch. C'est ça ta troisième entité, tu vois.
Oui, écoute, c'est ça. C'est ça, c'est en fait parce que tu es complet et parce que l'autre est complet, alors vous pouvez créer quelque chose à deux sans que ça prenne de l'autre. Et moi j'avais une autre métaphore, du coup,
Vas-y.
parce que j'aime beaucoup. Imagine que donc toi tu as un gâteau au chocolat
Ouais,
et que moi, du coup, si je
ça
suis
me
en
plaît
couple avec
beaucoup.
toi, j'ai aussi un gâteau au chocolat. Et le couple déséquilibré, en fait, si moi j'ai des attentes envers toi, c'est comme si en gros je vais enlever une part du gâteau et prendre une part de gâteau à toi pour compléter le mien. Du coup, je te laisse un peu du vide. Alors qu'en fait, si moi je garde ma part de gâteau, c'est-à-dire que je reste entière et que toi tu as ton gâteau, et ben en fait, on peut utiliser tout ce qu'on a utile. Ce qu'on a. Ça va partir en mode philosophique, mais. Je vais me servir de l'expérience que j'ai acquise pour obtenir mon gâteau, et tu vas utiliser l'expérience que tu as acquise et tout ce que tu possèdes aussi pour qu'on fasse ensemble un autre gâteau,
D'accord.
encore meilleur et complètement unique, parce que ce sera vraiment la conjugaison. Et en fait, c'est ça la relation. La relation, il faut vraiment la voir comme une entité à part qu'il faut. Dans laquelle on va mettre un peu de chacun et qu'on va nourrir régulièrement, mais c'est pas quelque chose que l'autre va te donner pour que toi tu puisses grandir. Après, je pense que c'est important aussi de se dire que oui, moi si je retrouve une personne avec qui j'ai envie de me mettre en couple, effectivement, bah, j'ai envie qu'on puisse communiquer, j'ai envie qu'il m'apporte je sais pas, qu'il m'apprenne à mieux me connaître ou qu'il m'apprenne des choses sur la vie, sur le monde. Enfin, voilà, forcément, la personne va m'apporter des choses et je vais apporter des choses à cette personne. Mais ça ne va pas partir d'un état de manque, ça va partir d'un état d'abondance, en fait. Donc c'est absolument pas la même chose. Je pense que ça va donner une relation beaucoup plus stable. Je pense qu'aujourd'hui, si je repars dans une relation sérieuse, je repartirai pas du tout avec les mêmes bases et j'attendrai plus les mêmes choses. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je sais que je suis beaucoup plus lucide et mature maintenant que je l'étais il y a 8 ans, quoi.
Alors, attends, j'ai deux trucs à dire. La première, c'est que j'ai une troisième métaphore, c'est les
Non,
Chocapic. Tu sais, la pub où t'as le chocolat, t'as genre la lave de chocolat, ça c'est le numéro un qui arrive sur le champ de blé et paf, ça fait les Chocapic. Bon, voilà, passons, fermons la parenthèse de la métaphore. La dernière question, parce que du coup, faut que tu partes après ça.
j'ai pas eu.
Juste la dernière question, c'est toi aujourd'hui. Tu quoi?
C'est une alarme que j'ai.
Ah. Toi aujourd'hui dans ton célibat
Oui.
actuel, dans justement le fait que tu cherches à t'apporter à toi-même les choses dont tu as besoin, est-ce que tu pourrais juste décrire un peu toi, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui fait que tu te sens complète aujourd'hui de par des activités ou des pensées?
Ben, pense que comme toi, mon travail me nourrit beaucoup parce que j'ai créé une activité qui parle vraiment de moi, de mon expérience que j'ai vécue. Je pense que je l'avais arrêté.
C'est pas grave.
Pardon.
Petite alarme.
J'ai créé une entreprise qui partait de moi. Le fait de d'apporter moi ce que j'ai vécu et ce que je veux transmettre à mes clientes, ça m'aide à encore plus me connaître. Donc je passe beaucoup beaucoup de temps à me connecter à mon intuition, à mes envies et c'est vraiment que du kiff en fait. J'adore faire ça. Je peux y passer vraiment beaucoup de temps à me poser ces questions-là, à discuter avec toi pour essayer d'y voir encore plus clair, avec ma coach et ma thérapeute aussi. Donc, je pense que la thérapie, entre autres, a été, est un des meilleurs cadeaux que j'ai pu me faire pendant cette période parce que ça m'aide à avoir vraiment beaucoup plus clair sur tous les mécanismes que j'ai adoptés jusqu'à aujourd'hui et tout ce que je peux adopter pour la suite pour aller mieux. C'est surtout ça. Je fais un peu d'aquarelle, mais c'est très ponctuel. Ça me permet de vraiment couper mon esprit et m'évader longtemps. Je passe beaucoup de temps avec ma fille aussi, parce que du coup j'aime me balader avec elle, jouer avec elle et tout ça. C'est surtout ça. Après, je pense un peu comme tout le monde, j'ai besoin de passer 2, 3, 4 heures devant Netflix, parce que ça me permet aussi de me divertir. Et puis voilà, là depuis la fin du confinement, je repasse un peu de temps avec mes amis à sortir, à prendre l'air. Je me suis inscrite sur des applis de rencontres. Ça n'avait toujours porté ses fruits, mais...
Ah oui, on n'a pas évoqué ça. On gardera pour un autre épisode.
Oui. il va falloir du temps, je pense.
Ouais, on fera soit un épisode 2, Antonia 2, ou alors je ferai un épisode qui sera un condensé d'histoires d'appli de rencontre, on verra.
Oui, ouais, c'est ça. Tu peux faire un épisode spécialement sur toutes les fails des applis de rencontre, je pense.
Ça m'en fait rien de moi, ça va durer une heure, alors...
Mon Dieu.
Ok. Eh ben merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Écoute, on verra si on fait, on reparlera de cette anecdote une autre fois. On fait un peu le teasing pour un prochain épisode.
Ouais.
Et merci à toi qui as écouté jusqu'à la fin. Et on se retrouve dans le prochain épisode avec une nouvelle personne. Je ne sais pas encore qui c'est, puisque même Antonia, je ne savais pas avant, il y a 2 heures, que ce serait elle, le troisième épisode. Mais en tout cas, à la prochaine.
Salut!